Bonjour à tous, mardi 1er mai 2018, voilà, le mois de mai est arrivé et nous sommes encore là et bien là. Quand je dis nous, c'est avec Jean-François Roy. Bonjour Jean-François.
Bonjour Louis.
Comment allez-vous?
Très très bien, je suis votre nouveau collègue, on peut dire ça.
C'est officiel là maintenant, ça fait plusieurs semaines que nous sommes ensemble dans le navire.
3-4 certainement, oui.
Et puis ça va continuer comme ça, on est bien.
Oui, absolument, mais je vous sens d'un calme désarmant, Louis. On est à quelques minutes d'entrer en onde et puis inébranlable.
Mais tout va bien, le soleil brille.
Oui, ben ça aide sans doute.
Et je me promène, moi, mon petit secret, si vous le voulez, je me promène dans le parc La Fontaine tous les matins pour venir ici. Alors forcément.
Bon exercice.
Je vais bien, je suis calme. Quels sont les sujets du jour, Jean-François?
Ben écoutez, Louis, j'augmente toujours ma statistique de type de sujet abordé, mais je vais tout de même vous surprendre légèrement. Je vous parle de souffrir des blessures de l'âme. Oui, mais pourtant, ça rejoint pas mal tout le monde. Nouveau sujet, vous connaissez peut-être pas ce côté chez moi, mais la publicité. Alors, c'est sorti hier, ça concerne Radio-Canada. Nouvelle façon de présenter de la publicité.
Intéressant.
Aussi, et ça, c'est suite à une discussion avec notre metteur en onde hier qui m'a amené à ce sujet-là, le stress, on est plus stressé qu'avant. Les parents sont plus stressés qu'auparavant. Alors, c'est bien documenté, on va effleurer ça tout à l'heure. Je vous parle aussi de rire au travail. Riez-vous au travail, Louis?
Tous les jours,
c'est
en
essentiel.
Permanence.
Mais vous me semblez une personne assez heureuse et épanouie.
Je le suis, j'applique vos conseils de la semaine dernière.
Oui,
des secrets sur le bonheur. Qu'est-ce que vous croyez?
Très bonne chose. Et en complément, si jamais le temps nous le permet, c'est une dame qui réalise de la céramique, qui recolle des morceaux à l'aide de céramique.
Excellent. De mon côté, quelques petits sujets insolites. Comme d'habitude, nous parlerons vêtements avec une grogne vestimentaire en France. Vêtements également avec les codes à respecter dans un mariage princier. Ça peut arriver, c'est une situation banale de la vie. Également l'histoire de cet Australien de 12 ans parti tout seul à Bali. Et d'autres insolites à venir tout de suite dans les voies de service.
Comment vous qualifieriez votre âme, Louis?
En santé, je dirais.
Ah, mais vous, sans doute que vous suivez les conseils que je m'apprête à vous proposer, à vous présenter. Nous souffrons tous de blessures de l'âme. C'est un article rédigé par Lise Bourbeau, et c'est paru dans le magazine Mieux-être de février dernier. Pourquoi avons-nous aussi mal? Parce que nous n'avons pas appris à comment guérir. Rappelons-nous que ce n'est jamais une autre personne qui nous fait souffrir. C'est notre perception de l'incident, car nous percevons tout à travers nos filtres, nos blessures. Donc, nous nous faisons mal à nous-mêmes parce que nous laissons toutes les croyances de notre ego nous envahir, nous convaincre et nous diriger. Chacune de nos croyances est reliée à une blessure. Donc, qui dit blessure, dit bien sûr ego. L'humiliation est la seule blessure qu'il n'est pas possible de ne pas avoir. C'est la forme de votre corps qui vous le dira. Il y a toujours un lien entre l'état du corps et l'état psychologique. Je ne dis pas que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez jamais sentir, vous ne vous sentez jamais humilié. Par contre, la situation que vous trouvez humiliante vous touchera différemment. Prenons l'exemple d'un homme qui renverse sa tasse de café sur sa chemise blanche durant une réunion d'affaires importante. Il peut se sentir humilié. Mais il est possible que cette situation active plutôt sa blessure d'injustice et qu'il ait peur du jugement des autres sur son apparence, peur que son geste maladroit puisse affecter sa réputation d'homme parfait, toujours bien habillé. Il va tout faire pour enlever la tâche rapidement ou emprunter une chemise. S'il a la blessure d'humiliation, il va plutôt penser « j'ai l'air d'un vrai cochon ». Pourquoi faut-il toujours que cette situation m'arrive? Il peut même le dire à voix haute pour faire rire les autres, ce qui l'aide à cacher sa blessure. Chaque blessure fait vivre des émotions et des réactions différentes. En résumé, on ne doit pas s'attacher aux mots. Vous pouvez trouver une situation injuste alors qu'elle active davantage la trahison, et ainsi de suite pour toutes les blessures. Soyez vigilant au sujet de vos blessures. Rappelez-vous que ce n'est que par l'amour véritable que vous pouvez guérir vos blessures. Comme l'amour est synonyme d'acceptation, cela implique qu'à chaque fois que vous vous rendez compte qu'une blessure est activée par quelqu'un ou vous-même, vous pouvez vous accueillir sans vous critiquer ou sans critiquer l'autre. Vous pouvez donner le droit d'être humain avec des blessures. En réalité, cette grande loi de l'amour véritable est toute simple, mais elle n'est pas facile à appliquer parce que l'ego a pris tant d'importance. S'accepter ou accepter les autres sans aucun jugement, de bien ou mal, n'est possible que lorsque vous apprenez à devenir observateur de toute situation. Vous aurez le bonheur de voir diminuer vos blessures, mais ne pensez pas qu'un jour elles seront guéries. Tant que nous avons un ego, cela indique que nous avons encore des blessures. Ce que nous voulons surtout, c'est d'être capable de vivre une blessure sans laisser notre ego prendre le dessus avec la réaction propre à la blessure. C'est ce que j'appelle porter un masque. Chaque blessure a des réactions différentes et ce sont ces réactions et leurs conséquences qui nous font souffrir davantage.
Je ne sais pas si les individus dont je vais vous parler ont blessé jusqu'à l'âme, mais ils sont assurément fâchés, ils grognent. Je vous emmène en France dans le domaine de la pétanque, cet univers merveilleux. Grogne vestimentaire à la pétanque en France. L'interdiction du port du jean bleu lors d'épreuves qualificatives pour les championnats de France, c'est sérieux, de pétanque, a provoqué la grogne de nombreux licenciés désormais présentés comme un sport de haut niveau, selon la Fédération française. Sur les réseaux sociaux, des joueurs mécontents se sont partagés la photo du président du club de pétanque J, c'est en Haute-Saône, participant à une compétition déguisée en clown. À Nîmes, au sud de la France, des associations, les gens de Nîmes et une à Nîmes, organiseront même une partie de pétanque avec jean obligatoire le 1er mai, c'est donc aujourd'hui, en guise de protestation. On fait simplement appliquer un règlement qui existe depuis 1990, rappelle pourtant la Fédération française de pétanque et de jeux provençal, la FFPJP, interrogée mardi par l'AFP. Le jean bleu était déjà interdit pour les championnats de France et ses phases qualificatives, mais jusqu'à présent, pour les phases qualificatives, les comités départementaux n'appliquaient pas la règle. Dans son règlement, la FFPJP rappelle effectivement que pour ces compétitions, qui représentent seulement 5 à 10% du total des compétitions, seuls sont autorisés les pantalons et les pantacours. Pour la FFPJP, c'est d'abord une question d'image, alors que la pétanque, comme le billard et le squash, postule pour une homologation des Jeux Olympiques. On se sent observé dans la perspective des JO 2024, et une fédération qui ne sait pas faire respecter ses textes, ça fait mauvais genre. Souligne la FFPJP, dont le comité directeur devrait bientôt imposer une tenue sportive à ses licenciés pour les championnats de France. Or, le jean bleu est le plus sujet aux effets de mode, à être maltraité, déchiré, délavé, pas très propre, insiste la FFPJP, ajoutant « Pendant longtemps, la pétanque a été un loisir, chacun faisait ce qu'il voulait, mais maintenant, c'est un sport de haut niveau ».
Louis, vous connaissez maintenant mon grand intérêt pour la publicité.
Mais oui, vous en parlez tout le temps, en antenne, en permanence. Je plaisante.
C'est arrivé hier. En fait, c'était publié sur le site d'InfoPresse hier. Et c'est l'équipe de rédaction qui signe cet article. Des publicités rassemblées en bloc thématique à Radio-Canada. CBC et Radio-Canada Solutions Média dévoilent une nouvelle forme, une nouvelle offre publicitaire. La possibilité d'intégrer le message à l'intérieur d'un bloc thématique contenant exclusivement des publicités liées au contexte de l'émission en onde, une première au pays. L'objectif derrière cette nouvelle offre est de permettre aux annonceurs et aux agences d'ici de s'insérer à l'intérieur d'un bloc où toutes les publicités sont liées par un thème commun, lui-même associé à l'émission en ondes. Par exemple, pour une pause thématique « Tout en musique », le lien serait que les trames sonores mettent de l'avant la musique d'ici. Ce faisant, les messages attireront l'attention de l'auditoire et stimuleront les conversations, estime CBC et Radio-Canada Solutions Média. Les blocs thématiques seront quant à eux réservés à des moments événementiels, comme des galas ou des finales de séries populaires. Avec ce produit de créativité média, nous désirons offrir des occasions de placement média qui se démarquent dans l'univers encombré de la publicité, indique Renaud Poliquin, directeur général Vente Multiplateforme Québec et Est du Canada de CBC Radio-Canada Solutions Média. Ces pauses thématiques sont une réelle valeur ajoutée. Parmi les émissions qui contiendront ces blocs, on compte le dernier épisode de la populaire émission culinaire Les Chefs, où les aliments d'ici seront mis à l'honneur. Le gala de la disque avec une pause tout en musique, le gala des prix Gémeaux qui mettra de l'avant les artistes d'ici et le gala des Oliviers avec un bloc thématique tout en humour. Fait à noter, un panneau de 10 secondes en ouverture annoncera le thème et durant tout le bloc publicitaire et un bandeau conçu pour la thématique sera visible pendant toute la pause. Dans certains cas, pas encore précisé, les animateurs vont introduire la thématique du bloc publicitaire avant la pause. Cette stratégie vise à mettre en contexte des messages publicitaires avec le contenu, avec comme conséquence de générer plus d'engagement et d'émotion, conclut Renaud Poliquin. Nous pensons aussi qu'il s'agit d'une excellente formule pour valoriser le produit publicitaire et, plus largement, son industrie. Qui plus est, les esprits créatifs seront mis au défi. On sait qu'ils en raffolent, et j'en suis loué, pour être à la hauteur du concept média.
Au-dessus des vieux volcans, glissent des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, devant d'Espagne non plus d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne
Yann Perrot est le plus récent à s'attaquer à ce grand succès de Désirless de 1986, Voyage, Voyage. C'est le premier extrait d'un album qui paraît cette semaine pour Yann Perrot, peut-être en thématique avec ce titre. L'album s'appelle Voyager Léger.
Excellent. Voyageons alors. Je vous emmène au Japon tout de suite avec un article que j'ai adoré parce que j'aime les articles insolites. Mais là, ça mixe deux insolites ensemble. Vous avez, si vous voulez, d'un côté, les funérailles pour chiens. C'est quasiment devenu banal. On a vu ça déjà dans plusieurs articles.
Vous avez un concentré d'insolites, là.
Un concentré, vous allez voir. Une grande dose d'un coup. Donc, les funérailles pour chiens, je disais. Et d'un autre côté, les chiens robots. On le sait, ça existe aussi. Ça se démocratise de plus en plus.
Il y a même des sites de rencontres pour les chiens.
Oui. Alors, on va en mixer que deux ce matin, pas trois. Je vous présente les funérailles pour chiens robots. C'est parti, ça se passe au Japon. Et ça va être dur de rester sérieux, mais je vais essayer. En sang et sutra récités par un moine, les rituels de funérailles traditionnels sont respectés. Mais ce n'est pas un être humain que l'on dit adieu ce jeudi dans un temple à l'est de Tokyo. C'est à une centaine, parce qu'il les regroupe, de chiens robots. Alignés devant le cœur du temple pluricentenaire de Kofukuji, de la ville d'Izumi, dans la préfecture de Shiba, les 114 robots sont de vieux modèles du célèbre chien Aibo, lancé par Sony en 1999. Hors d'usage et sans possibilité de réparation, ils ont dû être mis au rebut par leur propriétaire. La fumée de l'encens emplit le temple pendant qu'un moine récite des sutras, priant pour une transition paisible des âmes des défunts. Seul entorse à la tradition, un petit robot bien vivant, celui-là, explique ce qui attend les chiens après la cérémonie. Les propriétaires ne sont pas présents, mais chacun a envoyé une lettre indiquant le nom de son ancien animal de compagnie et racontant des souvenirs partagés avec lui. « Je me sens soulagé de savoir qu'il y aura une prière pour mon Aibo », dit ainsi l'une de ses lettres, tandis que dans une autre, un propriétaire a écrit « J'ai pleuré lorsque j'ai pris la décision de lui dire adieu », ajoutant « S'il vous plaît, aidez d'autres Aibo ». Car une fois les funérailles achevées, les chiens sont précautionneusement rangés dans du papier bulle et des cartons, direction les locaux d'Afun, une société spécialisée dans la réparation de produits électroniques vintage. Leurs parties encore fonctionnelles serviront de stock de pièces détachées pour redonner vie à d'autres robots cassés. C'est Afun qui organise ces funérailles collectives et plus de 800 modèles d'Aibo ont déjà eu droit à leur cérémonie. Il y a beaucoup de personnes qui nous envoient leurs robots parce que je pense que ça les apaise de faire don de leur corps plutôt que de le jeter comme une simple machine, explique Nabuyuki Norimatsu, son dirigeant. Pour Bungen Oi, le moine du temple, ces cérémonies ne sont pas du tout absurdes. L'essence du bouddhisme habite toute chose, même les machines ont une conscience, alors c'est pour cela qu'on pratique cette cérémonie, explique-t-il. Aibo a été le premier robot domestique capable de développer une certaine personnalité. Sony a lancé la première génération en juin 1999 et le petit chien a connu un succès immédiat. Le premier lot de 3000 exemplaires s'est arraché en moins de 20 minutes, malgré un prix élevé de 250 000 yens, soit environ 2 000-2 500 dollars canadiens tout de même. Au fil des années, plus de 150 000 chiens ont été écoulés, mais en 2006, confronté à des difficultés financières, Sony a cessé de fabriquer le robot Aibo. Le groupe a maintenu une clinique de réparation ouverte jusqu'en 2014, avant de la fermer elle aussi, laissant les maîtres de ces chiens sans secours en cas de problème. À leur grand soulagement, d'anciens ingénieurs du groupe ont pris le relais en créant la société Afun. Si en janvier dernier, Sony a dévoilé une nouvelle version de son célèbre robot chien, connecté et dopé cette fois à l'intelligence artificielle, il n'a pas relancé la réparation de son ancêtre du XXe siècle.
Je vous le demandais, Louis, en début d'émission, vous n'êtes pas stressé, alors je présume que vous n'êtes pas parent?
Non, pas encore,
bon,
c'est ça.
Viendra. Un jour, ce sera la rançon de la gloire.
Ma vie va basculer.
Oui, très certainement. Alors, on vous demande, plus stressé qu'avant, les parents, c'est tiré du site web Naître et Grandir, un papier signé Nathalie Valran. Tout indique que nous sommes aujourd'hui plus stressés que les parents des générations précédentes. Et les raisons sont nombreuses. Pression sociale accrue, conciliation famille-travail plus difficile, union moins longue. Les parents se mettent beaucoup de pression pour faire bien les choses, pour que tout soit parfait. Remarque la psychologue Nathalie Parent. Fanny, maman de 3 enfants, en témoigne. Je suis très exigeante envers moi, alors je remets beaucoup de mes questions et décisions parentales. Elle remet ça en question. Est-ce que je stimule trop mes enfants? Est-ce que je les stimule suffisamment? Ça ne m'empêche pas de dormir, mais j'y pense souvent. Le stress lié au travail. La conciliation famille-travail ajoute aussi beaucoup de pression sur les parents. Aller mener et chercher des enfants à la garderie, planifier, préparer les repas, s'occuper des rendez-vous médicaux, toutes ces responsabilités représentent un important facteur de stress parental. Sans compter que les parents vivent aussi des situations stressantes au travail, ajoute la travailleure sociale Steve Audet. Même se rendre au travail est devenu une source de stress en raison des nombreux problèmes de circulation. En 2015, une étude québécoise a d'ailleurs établi un lien entre la congestion routière, le stress et l'épuisement professionnel. Et à la vie de la famille? Le modèle familial peut aussi avoir un effet sur le stress. Les unions durent moins longtemps qu'avant. Il y a donc plus de séparations et de familles recomposées. Cela cause plusieurs changements qui sont d'autres sources de stress pour les parents. Une étude américaine est même arrivé à la conclusion que les parents de familles recomposées étaient plus à risque de dépression. Ces parents cherchaient à bien réussir dans chacun de leurs rôles, ce qui leur mettait beaucoup de pression. Autre facteur de stress à ne pas négliger, l'obsession des parents pour la sécurité des enfants, même si nous vivons dans une société plus sécuritaire qu'avant, où les dangers ne sont pas nombreux. Les parents voient plus que jamais du danger partout, dit Sonia Lupien. Et l'information qui circule dans les médias et sur Internet alimente leur peur. Le burn-out parental. Vivre du stress à répétition peut causer des problèmes de santé mentale. Certains parents souffriraient notamment de burn-out parental, un trouble qui n'est toutefois pas reconnu officiellement. Selon les chercheuses belges Moira Mikojalak et Isabelle Roskam, le burn-out parental comporte 3 dimensions. Tout d'abord, le parent touché ressent un épuisement physique et émotionnel. Il est vidé au bout du rouleau et tout lui apparaît comme une montagne. Ensuite, il s'intéresse moins à ses enfants. Il a de la difficulté à avoir du plaisir avec eux et à leur montrer qu'il les aime. Enfin, il a l'impression de ne pas être un bon parent. Plusieurs facteurs peuvent mener au burn-out parental. Cependant, le désir d'être un parent parfait et le fait de se fixer un idéal impossible à atteindre jouent un rôle important. Il s'agit aussi souvent d'un parent qui s'est investi à fond dans son rôle parental en oubliant les autres aspects de sa vie. Par exemple, il a donné sans compter pour ce qui concerne les soins à l'enfant, les activités d'éveil, les repas et le temps passé à jouer. Décrivent les chercheuses dans leur livre « Le burn-out parental ». Le parent finit par ne plus prendre de temps pour lui-même, par négliger ses amis, ses loisirs et sa vie de couple, et il finit par craquer. Pour éviter le burn-out parental, il est important d'ajuster ses attentes parentales à sa propre réalité, de prendre du temps pour soi et de faire équipe avec son partenaire pour les soins aux enfants et les tâches ménagères, sans oublier de passer des moments agréables en famille. Selon une étude québécoise réalisée auprès de parents d'enfants de 0 à 5 ans, l'accumulation de responsabilités contribue au stress des parents. Presque la moitié des parents ont souvent ou toujours l'impression de courir toute la journée pour faire ce qu'ils ont à faire. Un peu plus du tiers des parents disent être souvent ou toujours épuisés lorsqu'arrive l'heure du souper. 55% des parents n'ont jamais ou ont rarement l'impression d'avoir suffisamment de temps libre pour eux. 15% des parents disent vivre souvent ou toujours beaucoup de stress lié au comportement de leur enfant ou aux difficultés vécues par ceux-ci. Je vous rappelle que ça vient du magazine Mieux-être, édition de février dernier.
Avant de partir pour la pause, je vous propose d'entamer un article assez long, mais intéressant et important surtout, que nous poursuivrons donc dans la deuxième partie de l'émission. Les beaux jours sont de retour, et qui dit beaux jours dit mariage, on va en voir fleurir ici et là, et qui dit mariage princier, on n'est pas à l'abri de se faire inviter à un mariage princier, voilà, ça peut arriver, on ne va pas se le cacher. Je vous propose donc cet article pour tout savoir des règles d'étiquette entourant un mariage princier. Bien que le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, le 19 mai, ça arrive, sera plus discret que celui de William et Kate, les invités à la chapelle Saint-Georges devront suivre le protocole religieux et royal, ou du moins les traditions britanniques de base, selon les experts de l'étiquette. Les faire-part envoyés aux 600 invités mentionnaient le code vestimentaire. Pour les hommes, un uniforme militaire, une veste tailleur ou un complet, en évitant les couleurs criardes. Pour les femmes, une robe de ville avec un chapeau. Le code vestimentaire est suffisamment vague pour qu'il y ait un risque de faux pas. Il permet également d'honorer de vieilles traditions méconnues comme l'utilisation de la paille comme matériel pour les chapeaux après Pâques. Voici quelques conseils d'étiquette pour un mariage royal. Tenue de ville et épaules. L'experte en étiquette Mika Mayer, qui a suivi une formation à Londres auprès d'un membre de la résidence royale, affirme que la tenue appropriée pour une telle occasion peut être bien différente au Royaume-Uni qu'ailleurs dans le monde. Les épaules des femmes devraient être couvertes. Il faut savoir qu'il est question de l'Église d'Angleterre et que la grand-mère du marié est toutefois à la tête de cette institution. Les jupes ne doivent pas être plus courtes que le doigt le plus long lorsque les bras sont tendus et tenus le long du corps, et pas plus longues que le milieu du mollet, souligne Madame Mayer. On ne verra pas de décolleté, on ne verra pas beaucoup de peau, a-t-elle noté. Du moins, on ne devrait pas. Ce serait perçu comme un manque de respect. Les robes majoritairement noires ou blanches sont à éviter. Le blanc est réservé à la mariée et possiblement à ses demoiselles d'honneur. Le noir est couleur de deuil, bien évidemment. Des accents, des motifs ou de petites touches de ces couleurs sont acceptables. Voilà pour ces premières petites indications. Après la pause, nous parlerons des messieurs également et des chapeaux. Voilà tout l'attirail pour un mariage princier réussi. A tout de suite sur les voies de service.
Le sourire large de même galet qui gesticule avec leurs deux mains, des airs en majuscule. Ou ben tu boutes des doigts pour t'expliquer ça. Ben non, crains pas, tu manqueras pas une virgule. Ils voient des lacs qui font des bombes dans l'eau. L'été c'est bon pour les crampes au cerveau. Moi, alpaga, ça me prend ta peau. L'automne arrive, faut que je me chauffe les os. Mes dents de requin, moi je pense à fille de Rouen. Comme dirait l'autre, d'où est-ce que tu penses que je viens? Massimo Québec au large, là-bas, à Caracat, au festival du Beluga, que ça se passe à pas. Les gars, rien de moi, j'ai pris une shot sur ma gueule de bois. Pistache, cerise ou même ballon chocolat, à chacun son selon sa saveur du mois. Toutes les équipes s'entendent pour dire, pour rien au monde, on s'en passera pas. À s'en ennuyer que ça va titiller, jusque d'un talon les jours d'été. Ou à l'ombre des cheveux, j'aurais été un animal du bout de mon nez. Moi je pense à fille de Rouen. Mais comme dirait l'autre, d'où est-ce que tu penses que je viens? Et oh la 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 la. 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 Chut, 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 ni tit, 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 tout le monde ensemble, we all love tits. Tu tombes plaque, la course. Au petit printemps, les quatre saisons, une gorgée de miel saveur maison. Le poids de ma noix quand le verre jauni dans le creux de tes mains, que le ciel est gris. Assinos du bain au petit matin, ma belle grande face en tes deux seins. Moi je pense à fille de Rouen. Mais comme dirait l'eau, d'où est-ce tu penses que je viens? Et oh la la lolo. 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 Et oh la la lolo.
Est-il besoin de répéter le titre de cette chanson de Bernard Adamus? Hola les lolos!
Poursuivons avec les règles d'étiquette britannique où on ne verra donc pas de lolo comme je le mentionnais juste avant la pause, puisqu'il faut se méfier donc de la longueur de la jupe et du décolleté. Poursuivons avec les chapeaux, mesdames, si vous le voulez bien. Chapeau, ce n'est pas la taille qui compte. Les mariages royaux peuvent ressembler à un festival du chapeau. Les chapeaux sont un signe de festivité pour un mariage britannique. Ils sont gardés sur la tête à l'intérieur de l'église, mais les gens doivent penser à ceux assis derrière eux, explique Madame Mayer, qui se spécialise dans l'étiquette, rappelons-le. Ce n'est pas le Kentucky Derby, pas de gros rebords, rien de trop haut. Le bibi, ces petits chapeaux décorés de boucles, de fleurs et plus, est populaire et parfaitement acceptable, mais en plus de donner une touche de fantaisie à la tenue. La fantaisie et non la folie est acceptable, selon la styliste Diane Lloyd, qui habille les Américains pour des événements mondains depuis plus de 30 ans. Madame Mayer souligne que les femmes commencent souvent par le chapeau lorsqu'elles planifient leur tenue. Madame Lloyd a une règle générale. Assurez-vous que votre chapeau et votre nu vont au même événement. L'énorme chapeau porté par la princesse Béatrice au mariage du frère de Harry, le prince William, avec Kate Middleton, servira de mise en garde. L'observatrice de la famille royale, Anne Chertoff, décrit la grande boucle du bibi de Béatrice comme étant ridicule de tellement de façons, mais au moins, on pouvait voir à travers. Le mariage est un événement religieux, mais aussi un événement qui se déroule le jour. Cela ne signifie pas qu'on peut s'y pointer chaussé n'importe comment. Ce n'est pas un pique-nique. Il faut oublier les chaussures ouvertes et les plateformes. L'escarpin sandale est aussi considéré comme trop familier. On veut quelque chose d'environ 4 pouces de haut maximum, précise-t-elle. L'entrée ne sera pas facile. Il y aura de la pierre, bien qu'on y verra aussi différents types de tapis. Et des talons aiguilles, mieux vaut oublier. Le sac à main, il doit être petit. On compte environ 800 sièges dans la chapelle Saint-Georges, mais on y est tout de même entassé. Il n'y a pas d'espace pour de gros sacs. Les pochettes ou autres sacs pouvant être gardés sur les genoux ou sur le côté sont à privilégier. La duchesse Kate utilise régulièrement de tels sacs. On ne voit jamais non plus la reine se balader avec un sac géant. Les hommes à présent. La majorité des hommes porteront une veste tailleur, prédit Madame Mayer. Ils portent des habits, souvent gris, bleu marin ou noir. Ils ont aussi une veste et une cravate. De fines rayures peuvent parfois se retrouver sur le pantalon. Pour ce qui est du complet, plus il est sombre, plus il est formel. Le complet en lin est à éviter. Les chaussures devront être cirées, comme elles n'ont jamais été cirées auparavant, et les hommes pourront s'amuser avec les couleurs et les motifs de leurs cravates, de leurs mouchoirs de poche et de leurs chaussettes. On évite cependant les ceintures ou chaussures brunes, qui sont perçues comme étant moins formelles que les noires. Les médailles portées sur les uniformes militaires sont communes, tout comme les autres types de médailles épinglées aux vestes tailleurs. La règle générale, si vous ne deviez en retenir qu'une, ne pas trop en faire. Les Américains l'oublient parfois, estime Madame Lloyd, qui réside à New Canaan dans le Connecticut. Vous n'êtes pas la princesse. Le maquillage doit être minimaliste, tout comme les accessoires. Les invités de bon goût laisseront leur chapeau parler pour eux, note-t-elle. On peut y aller avec une lèvre audacieuse et un chapeau, ça équilibre le tout, suggère la styliste. En ce qui concerne les accessoires, elle offre ses paroles sages de Coco Chanel. Avant de quitter la maison, regardez-vous dans le miroir et retirez-en un. Le seul choc des cultures possible surviendrait si des gens de Hollywood tentaient de se montrer plus royaux que la royauté, croit Madame Lloyd. Ils doivent se souvenir qu'il s'agit de la plus haute classe, ils possèdent les bijoux et les vêtements qu'ils portent, ils ne se transforment pas en souris à minuit. On dit que la reine n'aime pas particulièrement les robes aux bretelles étroites et les tenues trop révélatrices. Les invités ne se changeront pas pour assister à une réception immédiatement après le mariage, mais il y aura une fête privée à Frogmore House, au sud du château de Windsor. Si la tenue de soirée est de mise, comme c'était le cas après le mariage de William et Kate, les femmes seront appelées à porter une robe longue. Elle peut être sans manches, sans bretelles ou à manches longues, selon le style et les préférences personnelles de l'invité. Madame Chertoff est d'accord et prédit des tenues fabuleuses le soir venu, incluant des décolletés plongeants et de hautes fentes à la jupe. La reine n'avait pas assisté à la soirée ayant suivi le mariage de William et Kate et fera sans doute de même cette fois-ci, donc aucun risque de la choquer. Ce qui se passera à Frogmore House restera à Frogmore House. Les caméras seront éteintes, tout se passera derrière les portes closes.
Vous nous faites rêver, Louis, avec vos sujets.
J'essaye modestement d'apporter ma petite contribution à votre rêve quotidien.
Vous pouvez me répéter Frogmore House?
Frogmore House.
Je salue la capacité de présenter des accents inébranlables. Bravo. Avez-vous pensé à rire aujourd'hui?
Déjà, oui, c'est fait. Mais ça va continuer toute la journée.
Je m'adresse à l'auditoire, Louis. Je sais que vous riez beaucoup.
C'est la même réponse. Nous allons tous rire. Je me fais le porte-parole de notre auditoire.
On se le souhaite. Je crois que c'est très, très important. C'est un texte signé par Alain Sanson dans le journal Métro qui a été rédigé hier. C'est paru hier. Un milieu de travail où on ne rit pas est un milieu de travail précaire. Une équipe où on ne rit pas se prive de cohésion. Le rire nous permet de souder les liens qui nous unissent. Votre milieu de travail est-il source de plaisir? Combien de fois riez-vous chaque jour? Et ces rires ont-ils lieu en groupe? Remarquez que je ne vous encourage pas ici à prendre votre travail à la légère. C'est juste que l'humour est un talent unique qui nous permet de dédramatiser les événements et de tirer profit de ce qui, d'entrée de jeu, peut ressembler à une crise. En ce sens, il nous rapproche de la sagesse et nous permet de trouver des solutions qui échappent à ceux qui se promènent continuellement avec un front de bœuf. Ce n'est pas tout. Un bon rire en équipe constitue un geste quasi tribal. Il renforce la cohésion du groupe et crée une intimité propice à l'amélioration de la communication et l'ouverture aux autres. Une équipe ne devrait pas s'en priver. La capacité d'avoir du plaisir ensemble nous incite à devenir plus solidaires. De plus, elle nous permet d'ouvrir notre créativité et de voir des solutions là où il ne semble y avoir que des difficultés. Un cerveau positif est davantage outillé face aux défis quotidiens. Le plaisir vous rend plus tolérant et mieux en mesure de faire face aux vicissitudes de la vie. Du coup, vous êtes davantage capable de faire face à toutes les situations. De plus, si vous arrivez à faire grimper le plaisir à un niveau tel que vous riez chaque jour, vous améliorez probablement votre santé. Oui, il se passe de grandes choses quand vous riez. Ça relaxe votre corps et diminue votre stress, ce qui vous rend davantage capable de faire face aux défis en cours. Ça libère en vous des neurotransmetteurs qui vous rendent la vie plus agréable. Ce serait bon pour votre système cardiovasculaire, cardio-respiratoire, et ça améliorerait votre système immunitaire. Pourquoi vous en priver? D'autant plus que ces effets bénéfiques continueraient même lorsque les rires se sont tus et que vous avez essuyé les larmes de joie au coin de vos yeux. Et si certains autour de vous tentent de vous dire que le fait d'avoir du plaisir vous fait paraître frivole et vous enlève votre crédibilité, répondez que c'est mieux que d'avoir l'air constipé. Ou faites-leur lire cette chronique. Le meilleur moment pour avoir du plaisir, c'est aujourd'hui.
continuons avec le rire. Je vais vous parler de personnes qui ont ri, mais qui malheureusement ont du rire jaune en découvrant ce qui s'est passé. Nous partons dans le sud de la France où un petit musée a découvert que... Il comptait parmi sa collection, non pas un, non pas deux, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais 82 faux tableaux parmi ses œuvres présentées. C'est une catastrophe pour la municipalité. Yves Barniol, le maire d'Elne, une petite commune du sud de la France, non loin de Perpignan, ne décolère pas depuis la découverte d'une monumentale escroquerie au détriment du musée de la ville. La collection entièrement consacrée à l'enfant du pays, le peintre méditerranéiste Étienne Terrus, qui a vécu de 1857 à 1922, était composée, à majorité, à 60% de faux tableaux, dessins ou aquarelles. 82 œuvres sur les 140 de la collection. Vendredi, c'est à bas bruit que ce village de 8000 âmes a inauguré son musée entièrement rénové et désormais amputé de plus de la moitié de ses œuvres. Étienne Terrus est le grand peintre d'Elne, il fait partie de la commune, c'est le peintre de chez nous, lance le maire. Car si Terrus était ami avec de nombreux artistes de renom comme Henri Matisse ou André Derain, il préféra se retrancher dans sa ville natale après des études à Paris et ne connaîtra pas le même succès que son ami et mentor Aristide Maillol, explique sur son site La Ville d'Elne. C'est presque par hasard que le poteau rose a été découvert. Depuis 5 ans, quelques 80 pièces ont été achetées pour enrichir la collection. En 2013, la précédente équipe municipale avait acheté 16 œuvres. En 2015, des associations locales ont acquis 47 œuvres en lançant une souscription, auquel s'ajoute un legs de 13 pièces provenant de la collection privée d'Odette Traby au décès de la fondatrice du musée, explique l'historien d'art et commissaire d'exposition Éric Forcada. Monsieur Forcada a été mandaté l'été dernier par la mairie pour réorganiser l'institution autour de ses nouvelles acquisitions provenant majoritairement d'antiquaires de la région. Dès le premier coup d'œil, il se rend compte que la plupart sont des faux. Sur un tableau, la signature à l'encre s'effaçait lorsque je passais dessus avec mon gant blanc. Il sonne l'alerte et demande la réunion d'un collège d'experts pour confirmer ses doutes. Au niveau stylistique, c'est grossier. Des supports en coton ne correspondent pas aux toiles utilisées par Terrus et il y a parfois des anachronismes. J'espère que l'enquête ira au bout. Nous ne lâcherons pas. On va chercher tous les éléments, les délibérations, les certificats qui nous permettront de remonter jusqu'au faussaire, lâche le maire. Début avril, la municipalité a décidé de porter plainte, notamment pour faux, usage de faux, contrefaçon et escroquerie. Pour Éric Forcada, tout le marché de l'art au niveau local est gangréné. Du vendeur à la sauvette qui démarche les collectionneurs privés jusqu'aux antiquaires en passant par les salles des ventes. Il relève un particularisme local. Il y a dans les Pyrénées-Orientales, le département, énormément de collectionneurs privés avec un narcissisme local poussé qui sont extrêmement attachés aux artistes locaux. Mais le constat vaut à nettement plus large échelle. Personne ne se fait d'illusions. Il y a des faux et des œuvres mal attribuées dans les collections des musées. Relève Yann Walter, expert de SGS, qui se spécialise en analyse scientifique d'œuvres d'art. Il y a ainsi des œuvres mal attribuées au Louvre, à Paris, ou à la National Gallery de Londres, dans tous les musées du monde en fait, mais pas à hauteur de 60%.
Ce tissu à fleurs qui sournoise mon effleure quand je ne suis pas là. Je suis jaloux des dentelles, des flanelles, de tous ces petits riens qu'elle glisse sur sa peau de soie. Je suis jaloux du parfum qu'elle porte, des odeurs qui l'escortent partout. Simplement jaloux. Je suis jaloux des trottoirs qui l'emportent vers les vilaines portes qu'elle franchit sans moi. Je suis jaloux des regards qui la touchent, de toutes ses mains qui louchent en la suivant des doigts. Je suis jaloux des paroles qui la frôlent, des histoires pas si drôles dont elle rit parfois. Mais par-dessus tout, tout simplement jaloux. Pas de mal à une mouche, à moins qu'elle ne la touche. Tout simplement jaloux. Je suis jaloux des chansons qu'elle fredonne, des frissons que lui donne ces sons qui ne sont pas de moi. Je suis jaloux du tango qu'elle danse, de ce rien d'insouciance qui la devance pas à pas. Je suis jaloux des couleurs qu'elle allume dans les matins de brume des pays où elle va. Mais par-dessus tout, simplement jaloux. Je n'ai rien d'anormal, rien de louche. Je ne ferai pas de mal à une mouche, à moins qu'elle ne la touche. Simplement jaloux. Tout simplement jaloux.
Dommage, et la pièce tout simplement jaloux.
Dites-moi, Louis, est-ce que vous êtes du type à réparer vous-même votre grille-pain?
Non, je ne suis pas de cette catégorie-là.
Vous n'êtes pas très manuel?
Pas avec le grille-pain.
Peut-être que vous pourriez apporter vos objets à cette dame ici qui se spécialise en réparation. Réparatrice de céramique, la femme qui recollait les morceaux. C'est paru hier dans La Presse. C'est un article d'Isabelle Clément. Sophie Muguette-Rouleau exerce un métier aussi rare que nécessaire. Elle restaure les objets en céramique et en porcelaine. De l'anse d'une tasse de service à vaisselle ayant appartenu à votre grand-mère à l'objet rare d'une collection, en passant par le bibelot rapporté de voyage, pratiquement tout se répare. Portrait d'une passionnée qui fait de nombreux heureux en recollant les morceaux. Depuis qu'elle est toute petite, Sophie Muguette-Rouleau est une bricoleuse. Elle cherchait à réparer tous les objets qui tombaient sous la main. Cette autodidacte a été apprentie pendant 2 ans chez Mr. Fix-It, un atelier montréalais de réparation, avant d'ouvrir son propre atelier. Elle se spécialise dans les pièces de céramique, de porcelaine, de plâtre et d'ivoire, ainsi que de certaines pierres. La majorité des objets qu'on lui apporte ont une valeur sentimentale pour leur propriétaire. On ne fait pas toujours restaurer les objets parce qu'ils valent cher, mais plutôt parce qu'on s'y est attaché. D'ailleurs, Sophie Muguette ne veut pas toucher aux pièces muséales ou à celles ayant une grande valeur. Elle préfère les objets du quotidien, ceux qui ont du vécu et de belles histoires. Elle se souvient par exemple de la restauration d'un petit mouton de porcelaine qui avait été acheté au magasin à 1$. Ce bibelot avait été le dernier cadeau offert par un enfant à son grand-père avant qu'il meure. Un membre de la famille a déboursé 125$ pour le faire réparer par Sophie. Parmi les objets inusités qu'on lui a demandé de restaurer, elle se souvient aussi de couvercles d'anciens réservoirs de toilettes. Avant d'apporter un objet, Sophie Muguette-Rouleau ne conseille pas aux gens de tenter de recoller eux-mêmes un objet brisé. Les colles vendues en quincaillerie sont peu résistantes et jaunissent avec le temps. De plus, un objet mal collé coûtera plus cher à restaurer puisqu'il faudra le décoller. Elle suggère d'emballer chaque morceau séparément et de ne pas tout mettre dans un même sac. La céramique est très fragile et le frottement des différents morceaux, les uns contre les autres, peut causer encore plus de dommages. Chose importante à savoir, il est souvent possible de reconstruire un morceau manquant. Les différents types de restauration. La restauratrice propose trois types d'interventions. La restauration de base, collage simple. La restauration pour usage, bord d'assiette par exemple. Mais attention, aucune colle ne pourra être en contact avec les aliments ou aller au four. Et la restauration illusionniste, plus complexe, qui redonne à l'objet sa forme originale et où il est impossible de voir les interventions. Il est aussi important de savoir que ce genre de travail est long. Un temps de séchage pour la colle va de 16 jours à 1 mois. Sophie Muguette-Rouleau propose aussi la méthode de restauration japonaise Kintsugi, qui consiste à accentuer les traces de bris et les craquelures avec de la poudre métallique.
Parlons aventure. À présent, fut un temps pour être un aventurier. Il fallait être intrépide, courageux, n'avoir peur de rien, avoir éventuellement un vaisseau, une caravelle ou que sais-je encore.
Une belle cape aussi.
Oui, très important pour le décor. Merci, j'allais l'oublier. Eh bien, de nos jours, on a les aventuriers qu'on mérite. Il suffit d'une carte de crédit. Et puis, on peut être mineur, aucun problème. La police australienne tentait de comprendre mardi, la semaine passée, comment un garçon de 12 ans seulement a pu prendre l'avion tout seul à destination de l'île indonésienne de Bali et passer 4 jours à l'hôtel avec la carte de crédit de ses parents. L'adolescent s'est enfui de son domicile de Sydney après s'être disputé avec sa mère. Voilà, les plus grandes découvertes du monde peuvent partir de là, parfois. Il s'est d'abord envolé pour Perth, dans l'état d'Australie-Occidentale, avec la compagnie à bas coût Jetstar. Et puis pour Bali, d'après la chaîne de télévision Channel 9. Il n'aime pas qu'on lui dise non et résultat, j'ai un gosse en Indonésie, a raconté sa mère Emma. C'est facile, c'est bien trop facile, c'est un problème avec notre système, a-t-elle dit, appelant au renforcement des contrôles pour les jeunes. La famille s'était déjà rendue en vacances à Bali, au lieu du tourisme indonésien. D'après Emma, son fils avait déjà tenté de réserver des vols en solo, mais il s'était heurté au refus des compagnies au motif qu'il n'avait pas de lettre d'autorisation parentale. Pendant des semaines, on a appelé au secours, a-t-elle poursuivi, lorsqu'il y a eu la première tentative pour l'Indonésie. On nous a dit que son passeport serait signalé, qu'il n'y avait aucun risque. L'adolescent a expliqué que la compagnie aérienne lui avait dit 7 fois qu'il n'avait pas besoin d'autorisation pour embarquer. Il a passé 4 jours à Bali, où il a raconté s'être enregistré à l'hôtel, avoir même loué un scooter et bu de la bière, avant qu'un ami n'alerte sa mère après avoir vu une vidéo géolocalisée de lui dans la piscine. Ses vacances ont coûté à ses parents pas moins de 8 000 $ australiens, soit à peu près 7 800 $ canadiens. La police fédérale a expliqué avoir été alertée initialement des velléités d'escapade du garçon le 8 mars, avant d'apprendre qu'il se trouvait à Bali le 17 mars. L'enfant a été retrouvé par la police indonésienne le lendemain, puis ses parents ont dû se rendre et sont partis sur l'île de Bali pour le récupérer. Aucune alerte n'avait été émise pour l'empêcher de voyager à l'étranger, a ajouté la police, qui n'avait pas le pouvoir de demander l'annulation de son passeport en l'absence de délit présumé. Jetstar, la compagnie aérienne, a dit avoir modifié ses procédures depuis. En Australie, les enfants de moins de 5 ans ne peuvent voyager non accompagnés, j'espère. Entre 5 et 11 ans, ils disposent de billets pour mineurs non accompagnés, tandis qu'entre 12 et 15 ans, il ne faut qu'une autorisation de leur tuteur légal. Vous ne repartirez pas sans prendre une petite question existentielle résolue. Pourquoi l'odeur de l'ail demeure si longtemps dans le corps ? L'ail est réputé pour donner mauvaise haleine, mais ses effets sont plus persistants qu'on ne le pense. Sachez que si vous trouvez que vous avez une haleine d'ail, même après vous avoir brossé les dents et avoir utilisé un rince-bouche, vous ne rêvez pas. Les composantes sulfuriques de l'ail, à l'instar de l'alcool, sont métabolisées dans le sang au moment de la digestion et contaminent l'air de nos poumons. Voilà.
Alors, je croyais que ça sortait par les pores de la peau.
Ça peut, si on en prend beaucoup, j'ai lu ça également, bon cas, oui. Mais ça commence par les poumons. Ce qui conclut cette émission sur une note métabolique. Remerciements à Jean-François. On recommence Jean-François Roy.
Merci Louis.
Et Jean-Sébastien Laliberté pour la mise en onde et les choix musicaux. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Encore plus de nouvelles et de secrets de ce monde à vous dévoiler.
On verra.
Il en reste temps. À la semaine prochaine.